Ça jase à Lyon avec Alexis André.
Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon. Je reçois ce matin Xavier Englebert, préfet, secrétaire général du Rhône, préfet délégué à l'égalité des chances. Xavier Englebert, bonjour.
Bonjour.
Le préfet Michel Delpuech a annoncé son intention de mettre fin aux bidonvilles de l'agglomération lyonnaise. 3 campements de Roms doivent être démantelés d'ici fin octobre. Pourquoi décider subitement d'agir alors qu'ils existent pour certains depuis plusieurs années?
Alors en premier lieu, il fallait bien entendu l'autorisation de justice. Ensuite, il nous a semblé important, le préfet Delpuech est arrivé le 1er avril, oui. Moi-même le 23 février, il nous a paru important d'analyser la situation et de nous dire, évacuer les camps, pourquoi faire? S'il s'agit de remettre entre 300 et 350 personnes
à la rue,
dispersées, ils reviendront s'installer ailleurs et on n'aura pas trouvé de solution. Nous nous sommes donc dit, il faut essayer de diagnostiquer d'abord les personnes qui se trouvent dans ces bidonvilles et puis pour certaines d'entre elles, de leur proposer une solution.
Et cette solution donc, c'est le dispositif intégration par l'emploi et l'école, I2E. Il y a plus de 300 Roms à peu près hein, dans ces campements de Vaux-en-Velin, Saint-Priest et Villeurbanne, La Fessine. Tous ne sont pas voués à intégrer ce dispositif. Pourquoi?
Nous souhaitons que ce dispositif puisse concerner environ 160 personnes.
Oui, la moitié à peu près.
Tout d'abord, nous voulons d'un dispositif fondé sur le volontariat. C'est-à-dire qu'il nous semble important que les personnes qui viennent dans ce dispositif s'engagent de façon contractuelle.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faut que ce soit gagnant-gagnant. D'une part, on va leur demander de renoncer à des modes de façon à gagner leur vie illicite, soit la mendicité, le ferraillage. Et d'autre part, on leur demande de s'engager dans un dispositif d'insertion.
Mmh.
Et nous, en contrepartie, on leur propose un hébergement pendant 3 ans maximum, parce que certains pourront naturellement trouver une solution avant, et nous leur demandons de scolariser leurs enfants régulièrement. C'est quelque chose d'essentiel. Donc on intègre par l'insertion professionnelle, une formation, et par ce qu'il y a de plus important, les enfants qui construisent l'avenir.
Ça voulait dire que l'autre moitié de ces personnes qui vivaient dans les camps n'étaient pas volontaires sur ces bases?
Non, ça veut dire que tout d'abord, nous allons privilégier les familles.
Oui.
Les familles nucléaires. Les personnes qui vivent dans les bidonvilles, certaines y vivent depuis longtemps, sont extrêmement abîmées par la vie, parce que ce sont des conditions extrêmement difficiles.
Mmh.
Nous avons quelques personnes malades ou handicapées qui ne peuvent d'évidence pas entrer dans ce dispositif. Ces personnes, nous leur trouverons une solution d'un autre type, d'accord, adapté à leur situation. Nous avons également quelques cas particuliers de personnes dont les enfants sont déjà extrêmement bien scolarisés. Nous ne souhaitons pas rompre avec le dispositif en cours et donc avec certaines municipalités, par exemple, on est déjà en réflexion pour accueillir ces familles, à la rigueur en les insérant, elles, beaucoup plus directement. Enfin, il existe aussi des personnes qui ne veulent pas être dans le dispositif, bon, ou des personnes seules, par exemple. Il y a quand même beaucoup de personnes seules hein, qui sont parmi ces personnes dans les bidonvilles. Et puis aussi des personnes, au casier judiciaire rempli, et il est hors de question, naturellement, d'intégrer dans ce dispositif des personnes qui ont un casier judiciaire.
Alors, on parle de ce dispositif. En quoi il va consister, hein, lui, qui va coûter environ 3 millions d'euros, réparti largement en faveur de l'Europe puis de l'État? Toute personne volontaire obtiendra un hébergement dans un village modulaire, un emploi ou une scolarisation?
Alors, l'emploi, pas tout de suite, parce qu'il faut encore y accéder.
Oui.
Alors, le dispositif, il est simple. Il part du principe... D'abord, effectivement, il est financé par des fonds européens pour l'essentiel. Récemment, il y avait eu des rapports parlementaires qui dénonçaient le fait qu'on n'utilise pas assez de fonds européens pour justement essayer d'intégrer les populations migrantes et notamment Roms. Donc je pense que c'est important de souligner cet aspect-là. L'idée, c'est que ces personnes donc, intègrent un village modulaire, donc par famille, avec des unités familiales, c'est-à-dire cuisine pour faire à manger,
oui.
Salle de bain, chambre pour la famille. Et donc les parents s'inscrivent dans un dispositif de formation, c'est-à-dire qu'ils vont être accompagnés par une équipe qui vont les mettre sur des formations de droit commun qui existent. Après, naturellement, on va diagnostiquer leurs besoins. Pour certains, c'est vraiment une intégration encore plus d'apprentissage de la langue française. Pour d'autres qui ont déjà fait des progrès, il s'agit peut-être de trouver la bonne formation qui permet de les orienter sur des emplois non pourvus. Il y a également, hein, je parcours régulièrement les listes d'emplois de Pôle emploi. Oui. Il y a aussi des listes d'emplois non pourvus parce que géographiquement, ils ne satisfont pas ou parce que voilà, on n'arrive pas à trouver des personnes qui souhaitent les prendre. Donc, l'idée, c'est bien d'orienter ces personnes vers des emplois non pourvus pour que justement, ça puisse aussi faire tourner l'économie. Quant aux enfants, il s'agit bel et bien de les scolariser régulièrement. Très souvent, les familles roms ont des comportements de migration pendulaire et reviennent en Roumanie, mais des fois, ils ne reviennent pas pendant les vacances, ce qui rompt la scolarité des enfants, et ça, ce n'est pas souhaitable. D'ailleurs, nous disons que les familles qui ne respecteront pas le contrat seront évincées du dispositif. Alors, donc, il s'agit bien de scolariser les enfants. Dans un premier temps, nous les scolariserons sur place, dans le village,
oui.
Pour voir, pour étudier aussi, pour mettre ces enfants à niveau, pour après les, mieux les intégrer dans des classes tout à fait normales à la rentrée scolaire prochaine.
Ce village modulaire, vous avez choisi un terrain qui appartient à l'État, à Saint-Genis-les-Olières. Le problème, c'est que la municipalité n'en veut pas et ils ont même voté une motion contre votre idée. On est arrivé à un point où l'insertion de personnes doit se négocier.
Il est normal que face à quelque chose d'imprévu, de nouveau, les gens expriment des craintes.
Oui.
Et donc, face à l'ignorance de la situation, il est normal que des comportements de rétractation aient lieu.
Mais est-ce qu'il y a vraiment de l'ignorance, puisque vous les avez rencontrés, et depuis, ils ont quand même voté un refus?
Oui, mais je pense qu'ils n'ont pas l'habitude d'être confrontés à ce type de situation. Nous, ce qu'on leur dit, et on le réexpliquera, bien entendu, c'est que, naturellement, il va s'agir d'un village extrêmement accompagné avec des équipes de professionnels qui sont derrière et qui, par exemple, vont gardienner ce village 24 heures sur 24, aussi pour protéger les populations des mafias qui peuvent exister dans les milieux roms. Il y en a, les bidonvilles donnent lieu à des locations quelquefois, donc il faut aussi protéger les familles et ça permettra d'assurer la continuité. Il s'agit aussi de veiller effectivement à ce que les craintes exprimées, nous puissions y répondre. Alors nous allons y répondre par la parole et après nous allons y répondre par les faits. Rappelez-vous, il y a eu plusieurs constructions de villages modulaires notamment dans le cadre du plan Grand Froid, avec des populations extrêmement démunies. On avait eu le cas à Oulin il y a quelques années avec 160 personnes. Il y avait eu des craintes exprimées. Je trouve légitime d'exprimer sa crainte et je préfère qu'elle s'exprime pour que nous puissions y répondre. Et après, il y a eu les faits. Et dans les faits, les gens se sont aperçus que c'était possible. À l'origine, notre projet, c'était plutôt de faire deux villages de 80 personnes. Pour l'instant, faute de terrain proposé, nous en avons un de 160. Si demain, on nous propose des terrains, naturellement, nous ferons 2 x 80, ce qui est le plus logique et aussi le plus facile à manager. Nous retournerons à Saint-Genis-les-Oulières. Nous réexpliquerons, bien entendu, aux habitants ce qu'il en est. Et notre ambition, c'est bien de leur montrer par les faits que nous avons réussi à résoudre ces problèmes. Mais la démocratie, c'est exprimer ses inquiétudes et naturellement que l'on puisse avoir une réponse. Je préfère ça à un silence qui cacherait des choses et après coup, on découvrirait des difficultés que nous ne pourrions pas résoudre.
Vous avez évoqué le cas d'Oulin. À l'époque, la municipalité avait dit « pourquoi nous ?» ou plutôt « pourquoi que nous ?» L'une des solutions qui avait amené à la sortie de la crise, c'était qu'effectivement, les familles avaient été dispatchées un peu sur plusieurs territoires, même plusieurs départements. Là, vous évoquez peut-être la possibilité d'ouvrir des villages dans d'autres secteurs. Des communes vous ont appelé récemment ou c'est compliqué ?
C'est forcément compliqué, d'accord ? Et il est compliqué de...
Pourtant, tout le monde s'est mobilisé récemment pour dire les migrants, il faut les accueillir. Les Roms, c'est pas la même chose selon eux ?
Eh bien, visiblement, les réactions ne sont pas les mêmes concernant les Roms que concernant les Syriens. Je pense que... De toute façon, il ne s'agit pas des mêmes populations.
Non, bien sûr.
Il convient bien de distinguer les Roms qui sont plutôt une problématique de quart-monde à traiter. J'insiste, ce sont des personnes qui sont extrêmement démunies sous tout point de vue. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut aborder la question Roms en se disant ce sont des personnes extrêmement pauvres, pauvres aussi dans leur formation, etc. Et nous devons leur apporter ce qu'il faut pour les insérer. Les migrants qui viendront de Syrie, ce ne sont pas les mêmes catégories sociales. Ils auront à radicalement apprendre le français. Et de toute façon, eux, ils auront un statut de réfugiés. Donc, les questions se poseront différemment, de même qu'elles se posent de façon différente pour d'autres problématiques qu'on a pu connaître, avec par exemple des Albanais ou des Serbes ou des Kosovars qui sont venus. Je pense qu'il faut vraiment distinguer ceci. Alors oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, a priori, vu les préjugés qui sont rattachés aux populations roms, de les franchir, mais c'est aussi notre devoir que de travailler sur les préjugés.
Merci Xavier Englebert.
Merci.
Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmag.com.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec lyonmag.com.